take you back to the closet.
Magic.
Clown system.
We're sponsoring a new band. It's called The Velvet Underground. And we're trying to... Well, since I don't really believe in painting anymore, I thought it would be a nice way of combining, and we have this chance to combine music and art.
Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. Coucou les copains, bienvenue dans ce premier numéro de Classic Sound System, l'émission consacrée aux albums incontournables de la musique populaire. C'était la voix d'Andy Warhol que vous venez d'entendre sur les premières mesures du morceau I'm Waiting for the Man du Velvet Underground, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du premier album du souterrain de velours, The Velvet Underground and Nico. L'année 1967 est une année extraordinaire pour le rock'n'roll. C'est l'année du premier album des Doors, l'année du Sgt Pepper des Beatles, l'année du premier album du Jimi Hendrix Experience, et l'année que l'étoile noire du Velvet choisit pour venir s'écraser sur la planète rock. Son premier disque, The Velvet Underground and Nico, est un album doublement iconoclaste, puisqu'il prend tant à rebrousse-poil les valeurs puritaines de l'Amérique bourgeoise que celles du mouvement hippie. Alors que la contre-culture semble confisquée par le flower power, la bande à Lou Reed pousse le rock'n'roll dans les orties et sort un diadème de noirceur, un bouquet de fleurs du mal fané, qui n'a encore aujourd'hui rien perdu de sa toxicité. Musicalement, le Velvet semble prendre avec un malin plaisir le contre-pied de ses contemporains. George Harrison et Brian Jones se mettent à la cithare planante, le Velvet lui préfère une viole gothique et stridente, fait de la production amateur un parti pris, méprise la virtuosité et n'hésite pas à coucher sur bande le crissement d'une chaise traînée sur le parquet. Loin de se complaire dans les lourdeurs du psychédélisme, le groupe new-yorkais donne corps à une esthétique trash, un rock de caniveau, qui jure franchement avec les canons musicaux de son époque. Débarrassé du carcan de la morale et de la bien-pensance, le Velvet taille à coups de riff la géographie secrète des perversions modernes, dans une saisissante galerie de clairs obscurs caravagesques. Pas étonnant donc que cet étrange météore, célébrant la marginalité et la cacophonie, soit passé relativement inaperçu lors de sa sortie. D'une certaine façon, le Velvet, c'est la contre-culture de la contre-culture. Le groupe expérimente, crée, sans vraiment sembler se soucier du succès commercial. Sterling Morrison, guitariste du groupe, résume ainsi la situation. En 1967, la scène pop, où qu'elle irait, irait sans nous. Des propos qu'une chanson comme Venus in Furs, quatrième piste de l'album, illustre à merveille. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Girl child in the dark comes in bells. Your servant, don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Le doux poison distillé par le souterrain de velours est le résultat de l'alchimie de cinq personnalités aussi complémentaires que disparates. Au cœur du groupe, à la guitare et au chant, il y a Lou Reed, compositeur principal, parolier et tête pensante de la bande. Passionné de doo-wop, le gringalet à lunettes noires a grandi dans une famille juive de Brooklyn. À l'adolescence, son goût pour les garçons lui vaudra de traumatiques séances d'électrochoc. Durant ses études à l'université de Syracuse, il suit les cours de Delmore Schwartz, écrivain et poète, en qui Lou voit un mentor, et à qui il dédiera d'ailleurs le morceau European Sun, qui clôture l'album. De retour à New York, Lou rêve de combiner littérature et rock'n'roll pour faire de ce dernier un art majeur et adulte. Bard halluciné, poète de l'asphalte, il chante de sa voix aux intonations dylanesques des hymnes à la perdition dans la grosse pomme pourrie. Lou, c'est un peu la rencontre de Baudelaire et de William Burroughs, empruntant au premier le génie d'ériger en objet poétique la laideur et la décadence, et au deuxième le goût d'une langue crue et directe. John Cale, altiste gallois de formation classique débarqué à New York, familier des avant-gardes musicales, avait déjà travaillé avec Lou Reed au sein des Primitives, formation à l'origine de The Ostrich, un single hystérique dont les paroles nous invitent à mettre la tête au sol et à l'écraser avec nos pieds, le ton est donné. Assurant les parties basses, clavier et cordes sur l'album, John Cale voulait, selon ses mots, combiner le côté funky et le côté wagnerien du rock'n'roll. Après le départ d'un premier percussionniste, le groupe est rejoint par Maureen Tucker, qui joue de la batterie debout.
Elle propose un jeu brut qui contribuera grandement à l'originalité du son velvétien. Parfois dépouillé jusqu'à l'épure, se contentant de marquer sourdement le tempo comme sur Heroine, usant des cymbales avec parcimonie. À la guitare, Sterling Morrison, camarade d'université de Lou, vient compléter le line-up. Et pour superviser tout ce beau monde, c'est rien de moins qu'Andy Warhol qui s'y colle. Le mogul du pop art les repère dans le Café Bizarre, club miteux de Manhattan, et les invite à la Factory, dans la perspective de combiner art graphique, film et musique. De ce projet naîtra le Exploding Plastic Inevitable, épileptique performance multimédia que le Velvet accompagne de sa musique, devant un public souvent perplexe. L'importance de Warhol est triple. Il est d'abord responsable de la célébrissime banane qui orne le disque. Évident symbole faïque, le beau fruit défendu pouvait se décoller sur les premières pochettes, découvrant ainsi une nouvelle banane couleur chair. La légende raconte que lécher ladite banane offrait un triple acide. Warhol est également le manager et le producteur du groupe. Enfin, producteur, ça reste un grand mot. Dans la mesure où ne touchant pas vraiment sa bille, question production, Andy se contentait en fait de financer les séances d'enregistrement.
Enfin, apport majeur de Warhol au groupe, l'artiste associe au Velvet la voix glaciale de la sculpturale Christa Pavgen, alias Nico, vestale germanique habituée de la Factory, qui sera le temps de l'album le cinquième membre du Velvet. Pour la petite histoire, Nico a aussi joué dans la Dolce Vita de Fellini.
Alors je vous propose maintenant d'écouter un extrait de Sunday Morning, c'est la première piste de l'album, qui comme on le devine d'ailleurs en filigrane était destinée à être chantée par Nico. À tort ou à raison, je vous laisse juger. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. Que l'on ne s'y trompe pas. De prime abord, on peut se laisser séduire par la mélodie désarmante de douceur de Sunday Morning. La ritournelle de Celesta qui ouvre l'album ne laisse rien présager du torrent de noirceur qui sort déjà dès l'entrée de cette basse souple, sensuelle et souterraine. Mais la deuxième piste, I'm Waiting for the Man, évocation pittoresque d'une rencontre avec un dealer, nous jette sans plus attendre dans les ronces de la jungle urbaine. Dès ce deuxième morceau, le Velvet plante le décor d'une métropolis dystopique, Babylone insatiable qui dévore ses enfants en les emprisonnant dans les mailles de ses paradis artificiels. Car cette musique, c'est avant tout la musique des villes, de New York plus particulièrement. 10 ans avant Billy Joel et 30 ans avant Nas, Lou synthétise sur vinyle le fameux New York State of Mind. Ce qui frappe avant tout à l'écoute de ces 48 minutes, c'est la profonde schizophrénie qui semble paradoxalement structurer l'album. Des street songs aux thématiques sordides alternent avec des ballades plus pop, plus mélodiques, vaguement Motown, comme on atteste le riff de Here She Goes Again, emprunté au Hitchhike de Marvin Gaye. L'album plonge ainsi l'auditeur dans un trip kaléidoscopique, passant d'une perversion à l'autre, dévoilant l'envers de l'euphorie hippie des années 60. Les paroles de Lou évoquent des tranches de vie d'une bohème tantôt romantique, tantôt glauque. La dualité des voix participe grandement à cette bipolarité troublante, dans un déconcertant jeu de miroir entre la voix d'une profondeur hiératique de Nico et celle, nasillarde, traînante du jeune loup. Je vous propose d'écouter un extrait de I'll Be Your Mirror, sur laquelle Nico prend le chant lead. I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset. Light on your door to show that you're home when you think the night has. L'album nous emmène en balade dans le métro de l'aliénation. Aliénation sentimentale, avec femme fatale, sexuelle dans Venus in Furs, référence à un roman de Sacher Masoch, père du sadomasochisme. Aliénation identitaire, sur ce I'll Be Your Mirror aux paroles teintées d'existentialisme, et paranoïa, sur Sunday Morning. Au firmament de la constellation des aliénations se trouve Héroïne. Toxic Topaz dans son écrin de dissonance délibérée qui ouvre la face B de l'album. Héroïne, c'est goutte pour goutte la retranscription sonore d'une injection du fatal opiacé, rare échappatoire au cauchemar urbain. Ce monument de marbre brun, taillé dans 2 accords, sol et ré, offre une vertigineuse spirale de 7 minutes où s'alternent crescendo et descente, crispation et relâchement abyssaux. L'orchestration, extraordinaire d'expressivité, mêle la viole stridente de John Cale et le battement sourd de la grosse caisse de Maureen Tucker, rythmant les variations cardiaques accompagnant le rush de Smack.
Loin de faire la promotion de l'héroïne cependant, cette chanson se situerait plutôt par-delà bien et mal. Selon les mots de Lou Reed himself, il n'y avait pas de jugement moral. Je crois que c'est une chose à laquelle j'ai fait très attention. Il n'y a pas de jugement moral dans ces chansons. Simplement, ceci et cela est arrivé, présenté de façon sèche, froidement. Julian Casablancas, chanteur des Strokes, résume parfaitement cette ambiguïté. Reed pouvait être romantique dans sa façon de saisir ces situations insensées, mais il était aussi intensément sincère. C'était de la poésie et du journalisme.
It's my wife and it's my life because a manor to my vein leads to a center in my head and then I'm better off than dead.
Un mot pour finir sur le son du Velvet. Enregistré entre Hollywood et New York, le disque se distingue par un son brut de décoffrage. Une production parfois épurée, parfois bruyante, souvent exigeante, et qui pourrait faire fuir les oreilles les plus délicates. Ce son posera cependant les fondations de ce qui se fera une décennie plus tard, en pleine explosion punk, et résonnera longtemps encore lors de la période grunge. Un son vaguement amateur, dans les mots de Maureen Tucker, associé à un refus de la virtuosité, de la sophistication outrancière. Un credo qu'illustre notamment un morceau comme Run, 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 chapelet de portraits acides de saints des rues et de junkies béatifiés, et son solo dissonant et frénétique.
Run, 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 take a deck or two. Run, 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 chips are dead than you. Tell you what to do.
Lors du discours d'intronisation du Velvet Underground au Rock'n'Roll Hall of Fame, Patti Smith a dit de la bande à loups « Ils ont ouvert des blessures qui méritaient d'être ouvertes, avec une brutale innocence. » Le temps de 4 albums, le groupe fit danser le rock'n'roll sur les charbons ardents, avant d'imploser en 1970. The Velvet Underground and Nico, ce monument de décadentisme new-yorkais à lunettes noires, reste indubitablement une des pierres angulaires de la musique populaire contemporaine. D'une effrayante modernité, la musique du Velvet, tel un diamant incandescent, continue de luire de toute sa noirceur, influençant d'innombrables générations de rockers, de David Bowie à Sonic Youth, en passant par Nirvana. Comme dit le fameux dicton attribué à Brian Eno, si le premier album du Velvet ne s'est vendu à sa sortie qu'à 30 000 exemplaires, tous ceux qui l'ont acheté ont fondé un groupe. Et qu'il me soit permis, pour clore cette chronique, de rendre un dernier hommage à Lou Reed, parti en octobre dernier attendre son homme sur tous les trottoirs du Jardin d'Éden. En espérant vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures, je vous laisse avec cette sublime version de I'm Waiting for the Man, interprétée par Lou lors d'un concert au Bataclan de Paris en 1972.
Got $26 in my hand. Up to Lexington, 125, feeling sick and dirty.